Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. 25 personnes ont péri dans un accident de route lundi au village Kakila, territoire de Kambov, dans le Haut-Katanga. Il s'agit d'un bus de transport en commun avec plusieurs passagers à bord. Il quittait Lubumbashi pour Kolwezi dans le Lualaba. L'excès de vitesse serait la principale cause de l'accident. Nord Kivu, calme précaire ce mercredi à Sake dans le Massissi. C'est après une nuit agitée à la suite des tirs des bombes sur la cité par le M23. Pas de victimes civiles, mais ces bombardements perturbent la voie de navigation lacustre qui relie Goma à l'axe Minova. Et puis, l'UNESCO s'engage à appuyer les écoles du Haut-Katanga dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique. Pour prévenir notamment le choléra, l'agence onusienne a remis des kits de lavage des mains dans les établissements scolaires. Pour en parler, nous recevons le représentant de l'UNESCO en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Nous venons de l'apprendre. 25 personnes sont mortes dans un accident de circulation survenu lundi, non loin de Kapolowe, dans le territoire de Kambov, province du Haut-Katanga. D'après l'administrateur du territoire, l'excès de vitesse serait la principale cause de cet accident qui intervient 24 heures après celui survenu sur la route Sakania-Kasumbalesa qui a fait 18 morts, tous membres d'une église. Retour sur les faits avec Jean Gandou.
Ce grand bus de transport en commun venait de Lubumbashi à destination de Kolwezi dans le Lualaba. Arrivé à la hauteur du village Kakila, non loin de Kapolowe, se trouvant sur une pente et voulant éviter un camion remorque venant dans les sens opposés, le chauffeur qui roulait à vive allure a perdu le contrôle du volant et a percuté un professeur qui était au bord de la route, avant de finir sa course dans un endroit marécageux plein de roseaux. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir d'une part certains passagers se débattre pour sortir de ces bus couchés et d'autre part, quelques courageux secourir les uns et tirer les corps de ceux qui ont succombé. Sur place, on a enregistré 25 morts et 26 blessés. Parmi ceux qui sont morts, se trouvent aussi bien les hommes, les femmes ainsi que de nombreux enfants. Leurs corps ont été amenés à la morgue de l'hôpital d'Ako Alikasi, situé à une vingtaine de kilomètres. Quant aux blessés, ils sont admis à l'hôpital de référence de Kapolo Egar dans le secteur de la Loufira. D'après l'administrateur du territoire de Kambov, dont dépend ce secteur, il y a 5 passagers qui en sont sortis sains et saufs. Il s'agit du chauffeur, d'une dame et de ses deux enfants ainsi que d'un policier. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, des fortes chaleurs, presque tout le monde en parle ici à Kinshasa. Le mercure atteint par moment 33 degrés, voire 34, selon l'Agence nationale de météorologie. La température ressentie, elle, va jusque 37 et au-delà, selon d'autres sites internationaux de prévision. Mais comment les Kinois vivent cette situation? Qu'en dit la Metelsat et que recommandent les médecins pour bien passer cette période? Réponse dans ce reportage de Babel Mpongo Massimango et Blaise Shindanikam.
Il fait chaud à Kinshasa, très chaud même se plaignent les habitants de jour comme de nuit. Dans leur humour notoire, des Kinois en rajoutent. L'un chargé de régler la température ces derniers temps serait un stagiaire. Delicia, une élève, nous dit comment elle vit cette situation.
On n'arrive pas, il n'y a pas du courant. Pour au moins mettre de la fraîcheur, vraiment on souffre.
Comment tu passes tes nuits?
Vraiment très mal. On n'arrive même pas à dormir. Avec des moustiques, il faut mettre encore des moustiquaires. Mais avec ça aussi, ça rajoute encore de la chaleur.
Qu'est-ce qui explique ces températures élevées? Augustin Taguisabo, chef de service sur la prévision à la Metelsat.
Ce sont des chaleurs normales de la saison. Dans l'atmosphère, il y a certaines anomalies au vent qui est en train de dissiper. Les petits nuages qui peuvent se former, nous devons connaître des pluies abondantes. Au mois d'avril, nous devons nous préparer davantage pour ne pas tomber sur les inondations.
Pour bien passer cette période, Dr Anissé Kipassa, spécialiste en santé publique, recommande ceci.
Il faut beaucoup boire de l'eau. Certaines périodes de la journée, rester sous l'ombre, porter des habits de coton légers, prendre de fruits qui contiennent beaucoup d'eau.
La déshydratation peut entraîner des fatigues, de maux de tête, un dysfonctionnement des reins et même la mort pour les personnes vulnérables.
Rendons-nous dans la province du Sankuru. Nous apprenons la fermeture depuis la semaine dernière de plusieurs pharmacies dans la cité de Tchoumbé, à plus ou moins 150 kilomètres de Lodja. Le médecin inspecteur provincial qui revient d'une mission dans la cité de Tchoumbé affirme que ses officines pharmaceutiques ont été scellées par le parquet pour certaines raisons dont le manque d'autorisation d'ouverture, la vente des produits périmés et la mauvaise conservation des médicaments. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Plusieurs pharmacies ont été scellées depuis la semaine dernière par le parquet sur ordre du médecin inspecteur provincial, raison pour laquelle certains habitants de la cité de Tchoumbé parcourent de longues distances à la recherche de médicaments pour les soins des malades. Les propriétaires de certaines pharmacies se plaignent pour le manque à gagner. John Lomengue est propriétaire de 3 pharmacies.
On a scellé les pharmacies et par après, on a compris, il fallait donner, si c'est le permis d'ouverture, trois pharmacies, même là où j'avais le permis d'ouverture, on dit non, c'est l'état est déjà passé. Nous sommes au début de l'année, d'où viennent les documents, mais dans des moments très difficiles comme ça.
Contacté, Dr Sila Omiteo, médecin inspecteur provincial, reconnaît avoir ordonné la fermeture de ces pharmacies pour les raisons suivantes.
À Tchoumbé, presque 80% de cuisines pharmacies qui n'avaient pas de cotisation de médicaments qui fonctionnaient illégalement. La deuxième raison, il s'est avéré qu'il y a des produits que le gouvernement donne gratuitement. Mais malheureusement, ils ont été retrouvés dans différentes officines, pas dans toutes. Et en plus, on a retrouvé des médicaments périmés dans les officines.
Le médecin inspecteur provincial signale que les inspecteurs seront déployés pour poursuivre avec le contrôle de conformité dans cette cité. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, au Nord Kivu, un calme précaire est observé ce mercredi à Sake, groupement Kamuranza, territoire de Masisi. C'est après une nuit agitée à la suite des tirs des bombes des rebelles du M23 sur la cité. Ces tirs n'auraient fait aucune victime civile. Toutefois, les sources locales expriment leur inquiétude par rapport à ces bombardements qui perturbent même la voie de navigation lacustre qui relie la ville de Goma à l'axe Minova actuellement. Le récit de Bernardin Yangui.
C'est autour de 21h locales, hier mardi, que des salves de mortiers tirées des collines occupées par les rebelles du M23 sont tombées notamment à Kimoka et Urtoboko dans la cité de Sake. Des sources civiles parlent d'une probable tentative de provocation des rebelles auxquelles les FRDC n'ont pas réagi. Les premiers témoignages ne font état d'aucune victime civile. Pour autant, la cité de Sake reste vidée à près de 90% de ses habitants. Ces derniers se sont déplacés depuis quelques semaines dans des camps autour et dans la ville de Goma. Nos sources ajoutent que c'est un énième bombardement des rebelles dans la zone. Dans la matinée d'hier mardi, au moins 3 pirogues motorisées ont essuyé des tirs de mitrailleuses lourdes et des bombes de mortiers provenant de la colline Ndumba, occupée par les rebelles, à Nyamubingwa, près de Bweremana. Ces embarcations transportaient des civils en provenance de Minova pour Goma et d'autres de Nzulu pour Minova. Même si ces tirs n'ont fait aucune victime, plusieurs notables de Sake expriment leur inquiétude par rapport à cette situation qui perturbait déjà aussi la navigation lacustre entre Goma et Minova. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, les députés provinciaux du Nord qui vous disent s'indigner de l'occupation depuis quelques jours des localités stratégiques du territoire de Rutshuru par les rebelles du M23. Dans un communiqué de presse rendu public hier, 17 députés signataires désapprouvent les replis dits stratégiques des FARDC, laissant certaines de ces localités être conquises sans combat. Un extrait de leur déclaration, lu ici par la députée Nafissa Ramazani Thérèse, élue de Walikale, propos recueillis par la presse de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu.
Nous sommes indignés de l'avancée de l'agression du Rwanda sous couvert du M23 qui ne cesse de prendre le contrôle de plusieurs localités et agglomérations comme Nyanzale, Kikuku, Kibirizi et Vichumbi pour ne citer que cela, en dépit d'une présence significative des éléments FARDC et des différentes forces de la communauté internationale. Nous sommes en désaccord total des replis dits stratégiques des FARDC qui laissent le couloir libre à l'ennemi et qui lui permettent d'élargir son champ d'action. Cette stratégie donne un souffle financier au M23/RDF qui contrôle actuellement les différentes mines en territoire de Rutshuru, riche en coltan, or, pyrochlore. Ces conflits armés ne cessent de jeter sur le chemin de l'exode des milliers de populations qui vivent dans des conditions inhumaines. Par ailleurs, il s'observe la montée de la criminalité dans les villes et territoires. Ainsi, nous recommandons au président de la République de poursuivre sans relâche les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'agression rwandaise et au pillage de nos ressources naturelles.
Signalant que jusqu'ici, l'armée n'a encore fait aucune déclaration sur la chute de la Rwindi et environ, cela malgré toutes nos tentatives. Pendant ce temps, à Beni, une vive tension a régné ce mercredi matin au quartier Ngadi, situé à plus ou moins 5 km de la ville de Beni. À l'origine, la population réclame le remplacement de l'unité des phares d'essai déployée dans ce milieu et qui est accusée de tracasserie et vol à main armée. Des barricades ont été érigées sur la route de Mavivi qui mène à l'aéroport de Beni, paralysant ainsi la circulation une bonne partie de la matinée. Sur place, des discussions sont entreprises entre les autorités locales, la jeunesse et l'armée. Marc Marofimbo, reportage.
Ils étaient une centaine des jeunes du quartier Ngadi qui sont descendus dans la rue tôt ce mercredi matin. Cette dernière pointe du doigt, les militaires des FARDC déployés dans la zone depuis une semaine. Des soldats qui, selon les manifestants, tracassent la population avec des vols à main armée. Les manifestants ont barricadé la route nationale numéro 4, paralysant ainsi toute circulation sur les tronçons routiers. Ils demandent le remplacement de cette unité militaire qui trouble la quiétude de la population. Stéphane Nikonza Mbakama, président de la société civile d'Ngadi.
Ces soldats privent la population de la circulation la nuit ici dans le milieu. Ils nous obligent d'entrer dans nos maisons à partir des 19h. Alors que dans la situation actuelle de la région, c'est la population qui peut donner les vraies informations aux soldats sur les activités et l'identité des civils dans la zone, car nous nous connaissons. Dans une seule semaine depuis leur déploiement, nous avons perdu beaucoup de nos biens dans la communauté. Alors, nous voulons leur changement, qu'ils partent ailleurs et qu'on nous donne une autre troupe.
Après 3 heures d'échauffourée, les forces de l'ordre ont réussi à dégager les barricades et libérer ainsi les passages pour la circulation. Toutefois, les autorités locales, l'armée et les représentants des manifestants discutaient toujours en fin de matinée de la suite à donner à ces revendications des manifestants qui ne jurent que pour le remplacement de cette unité des FARDC. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Du côté du Grand Bandundu, le phénomène Mobondo a occasionné notamment la présence des enfants non accompagnés qui souffrent et la crise alimentaire mettant en difficulté les femmes dans cet espace. C'est le constat de Emilienne Ouélé, coordonnatrice provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Kwilu. Elle l'a fait savoir en marge des activités liées au mois de mars dédiées à la femme. Elle condamne ce phénomène et demande au gouvernement congolais d'y mettre fin. Plus de détails avec Irène Boma.
Dans une interview accordée à Radio Okapi ce mercredi, la coordonnatrice provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH du Kwilu, a dénoncé les difficultés tant socio-économiques que sécuritaires auxquelles font face les femmes et les enfants dans la région du Grand Bandundu touchée par le phénomène Mobondo. Emilienne Ouélé en appelle à la responsabilité des autorités compétentes pour des solutions qui s'imposent.
Nous, les femmes de Bandundu en particulier, et la femme de la province du Kwilu en général, nous sommes en train de vivre des phénomènes impossibles. Avec le phénomène Mobondo, aujourd'hui la femme est en difficulté. Une situation qui a entraîné la crise, une situation qui a entraîné la famine. La femme est en train d'être tuée. Et à Bandundu, les grands Bandundu, nous n'avons jamais vu le phénomène des enfants non accompagnés. Aujourd'hui, nous avons des enfants non accompagnés. Leurs parents ont été tués dans les atrocités de Mobondo. Qu'on mette fin avec l'histoire de Mobondo au Kwango, au Kwilu, Maïndombe.
Finalement, qu'Emilène Ouélé s'est ainsi exprimée à l'occasion de la célébration du mois de mars dédié à la femme. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, tout député provincial qui sera attrapé en train de monnayer sa voix auprès des candidats gouverneurs et sénateurs subira des sanctions très sévères. Cette mise en garde est de la ministre de la Justice contre des députés provinciaux qui seraient en train de verser dans les actes de corruption. Rose Mutombo le disait hier après avoir été reçue par le président de la République. Selon la ministre, Félix-Antoine Tshisekedi déplore ce comportement et l'instruit à y veiller à travers le procureur général près la Cour de cassation. En effet, d'après le calendrier réaménagé de la CENI, les élections des sénateurs et des gouverneurs auront lieu respectivement le 21 et le 28 avril prochain. La ministre Rose Mutombo s'exprime au micro de Jeff Ngoy.
Le président de la République m'a demandé d'instruire le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper, en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu, mais ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour.
Actualité internationale. Nous sommes au Mozambique. Après avoir été frappé par le cyclone Freddy il y a seulement un an, le sud-est du pays a subi ces dernières 24 heures les précipitations extrêmes engendrées par la tempête tropicale Filippo. La tornade a fait 4 morts et un blessé, selon la radio-télévision d'État. L'armée soudanaise est parvenue à reprendre le siège de la radio-télévision d'État à Omdurman, marquant ainsi une avancée significative dans le conflit civil qui l'oppose depuis 11 mois aux forces de soutien rapide FSR. Ces dernières occupaient ce bâtiment depuis le début du conflit, mais les soldats de l'armée soudanaise y ont pris leur quartier et ont fêté leur victoire qu'ils décrivent comme majeure.
L'invité.
L'UNESCO s'engage à appuyer les écoles du Haut-Katanga dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique. Ainsi, pour prévenir le choléra notamment, des kits de lavage de mains sont remis dans les établissements scolaires. Pour en parler, nous recevons le représentant de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto, s'entretient avec Jean Gando.
Isaias Barreto, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi l'UNESCO appuie cette école en kit de lavage de mains?
L'UNESCO n'appuie pas seulement cette école, mais c'est environ 100 écoles de la province du Haut-Katanga qui vont recevoir des kits de lavage de mains dans le cadre de notre accompagnement aux efforts de la province, du PROVED, du ministère provincial de l'éducation dans la lutte contre les maladies hydriques, notamment contre l'épidémie de choléra dans la province. Et cette cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie symbolique de remise de ces kits, mais nous avons presque 500 kits qui seront remis aux différentes écoles de la province. Mais notre accompagnement aux efforts du gouvernement provincial ne se limite pas seulement à la distribution de ces kits. Nous avons trois composants. Bien sûr, la distribution de kits. Il y a aussi la formation et la sensibilisation des enseignants et des chefs d'établissement en ce qui concerne la lutte contre l'épidémie de choléra. Quand les enseignants et les chefs d'établissement sont bien préparés, ils peuvent davantage aider les élèves. Et il y a aussi une campagne de sensibilisation via radio pour arriver au niveau des communautés, des maisons, des foyers pour aider dans la lutte contre l'épidémie de choléra au niveau de la province.
Dans la province du Haut-Katanga, le choléra n'est pas seulement à Lubumbashi. Il a été déclaré à Kasumbalesa, à Likasi et dans d'autres entités. Est-ce que l'UNESCO peut aller aussi dans d'autres territoires en dehors de ceux qui sont à côté de Lubumbashi?
Nous sommes prêts à amener notre contribution à cet effort du gouvernement provincial. Bien sûr, nous sommes prêts à accompagner ces efforts, non seulement ici, mais aussi ailleurs. Ça fait presque 60 ans que nous sommes ici en RDC. Et nos actions ne se limitent pas au centre-ville, nos actions vont au-delà, y compris bien sûr dans les villages et dans les écoles les plus éloignées. Et donc nous sommes prêts à mener notre contribution là où cette contribution pourra être utile.
Dans l'entretemps, vous serez dans ces différentes écoles, quand exactement? Y a-t-il un calendrier?
On ne sera pas dans tous les 100 écoles, mais il y a les structures du ministère provincial qui certainement amèneront les kits à ces différentes écoles.
Et les formations se tiendront de quelle manière?
Il s'agit d'une formation des enseignants, des chefs d'établissement, qui sera organisée toujours en partenariat avec le ministère provincial. Et nous allons travailler avec le ministère dans les détails de ce genre de formation. On ne fait pas les choses tout seul, c'est toujours en partenariat avec le gouvernement central, dans ce cas avec le gouvernement provincial. Et donc c'est comme ça que nous allons travailler.
Le choléra n'est pas la seule maladie qui soit d'origine hydrique. Comment comptez-vous également soutenir les écoles pour combattre les éventuelles maladies qui viendraient de cette source?
Le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour lutter contre le choléra. Ces kits et ces formations et la campagne de sensibilisation, c'est pour lutter contre les maladies hydriques. Et donc, c'est-à-dire le choléra et d'autres maladies hydriques. On est toujours prêt à accompagner les efforts du gouvernement là où nous pouvons être utiles. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied et en partenariat avec le gouvernement provincial. Là où il y a un besoin, raison, nous sommes bien sûr prêts à étudier, à analyser la possibilité d'accompagner. Mais, encore une fois, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement contre le choléra, mais c'est contre les maladies hydriques.
Ben, nous savons également que le seul lavage de mains ne suffit pas pour éradiquer une épidémie. Il y a également les questions liées à l'environnement dans lequel évoluent ces écoles. Est-ce que cet aspect des choses a été aussi épinglé chez vous?
C'est un départ aujourd'hui. L'une des méthodes les plus efficaces et les plus simples de lutter contre les maladies hydriques comme le choléra, c'est exactement le lavage des mains. C'est la sensibilisation, la formation des enseignants, la sensibilisation de la population, et c'est là où nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, c'est un point de départ, il faut commencer avec des activités qui peuvent amener des résultats concrets et des activités qui peuvent atteindre un bon nombre donc, de bénéficiaires. Et c'est ça ce qu'on vient de faire aujourd'hui, encore une fois, en partenariat avec le PROVED. Et nous tenons vraiment à féliciter donc, la province, le PROVED, pour ce partenariat avec l'UNESCO qui nous permettra vraiment d'amener une contribution importante dans les efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre les maladies hydriques au niveau de la province.
Isaias Barreto, je vous remercie.
Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
Le représentant de l'UNESCO en RDC répondait aux questions de Jean Gandou. Par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.